Si vous vous rappelez des textes, des récits de Noël, vous aurez certainement souligné que Marie parle de la miséricorde de Dieu, hein, dans Luc chapitre 1, dans son hymne, dans la louange. Elle parle de cette miséricorde. Elle dit que la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et puis, verset 54 du chapitre 1, elle dit aussi que Dieu a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Et puis, on parle de la miséricorde de Dieu aussi à l'égard d'Élisabeth, hein. Et puis aussi de la miséricorde. Zacharie, dans son cantique, parle aussi de la miséricorde. Il parle même des entrailles de miséricorde. Il dit Jean-Baptiste va donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et donc, Noël, c'est aussi le temps où nous souvenons de cette miséricorde, comme nous venons de le chanter ici. Mais je voudrais parler d'autre chose. On pourrait reprendre le texte qui a déjà été lu ce matin, donc Luc chapitre 2, Luc au chapitre 2, et je vous invite à lire les 20 premiers versets de ce chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses, toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le texte commence avec « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste » et le temps, il est question ici, c'est le même que Luc décrit au verset 5 du chapitre 1 quand il dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée ». C'était un temps assez difficile, hein. C'est compliqué, on pourrait dire. Hérode était un, un Édomite descendant d'Ésaü, qui a souvent cherché à gagner la sympathie des Juifs, hein, au point qu'il a, si vous vous rappelez, entrepris la construction du temple. Hein, c'est le temple qu'il y avait donc à l'époque de Jésus. Et donc il était assez populaire, on pourrait dire, auprès du peuple juif. Il y avait quand même un petit peu de popularité auprès de ce peuple. Et il était à l'origine de la fondation de ce qu'on appelle le parti des Hérodiens. Quand on lit Marc chapitre 6, hein, il est question du parti des Hérodiens. Mais à côté de cela, c'était un personnage extrêmement avide de pouvoir. Et comme c'est souvent le cas, quand on est avide de pouvoir, on est souvent sanguinaire, en tout cas à cette époque. Et il a tué sa femme, son frère, sa mère et plusieurs de ses fils. Et on a un rapport, si vous voulez, de sa cruauté. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus et puis sont allés, ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître, et puis il leur a dit, mais allez, bon, ils se sont renseignés, c'était Bethléem, il leur a dit, allez et prenez des informations sur le petit enfant et puis revenez me voir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et puis vous vous rappelez, la Bible dit que les mages sont partis par un autre chemin, et Hérode s'est trouvé donc trompé, et dans une grande colère, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, je crois, hein, pour être certain d'avoir englobé dans cela Jésus. Donc on peut avoir une idée de la cruauté de cet homme et de l'époque dans laquelle ce peuple vivait. C'était un temps de ténèbres politiques et puis de crise aussi spirituelle. Matthieu 4, chapitre 16 dit « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc c'était un temps triste, un temps difficile. Et de plus, les circonstances de la naissance de Jésus, bien, c'était un temps où le peuple, la population était en mouvement parce que César Auguste avait décrété qu'il fallait faire un recensement. Donc ça bougeait dans tous les sens. Et c'est ainsi que Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Donc tout cela, on pourrait dire, était très compliqué comme situation, un peu comme notre situation aujourd'hui, un peu compliquée avec tout ce que l'on vit comme mouvement et comme autre chose. Mais je voudrais souligner, dans ce que nous avons lu, un contraste quand même qui apparaît. C'est d'abord l'atmosphère glorieuse qui entoure l'événement de la naissance de Jésus-Christ. Au sein de ce qu'on vient de lire, de cette complexité sociale, culturelle, nationale, économique, eh bien, il se déroule un événement que la Bible nous montre comme un événement glorieux. Les bergers sont, avant même d'entendre la naissance, informés de la naissance de Jésus, ils sont plongés dans cette atmosphère glorieuse. Parce que la Bible dit qu'ils étaient dans les champs et puis qu'il y a la gloire de Dieu qui a brillé autour d'eux. Et quand on lit l'évangile de Luc, il est plusieurs fois question de la gloire de Dieu. Luc chapitre 2, verset... Je veux dire, dans ce passage que nous avons lu, hein, chapitre 2, verset 9, que nous avons lu, c'est la gloire de Dieu qui resplendit autour des anges. Au verset 14, eh bien, c'est le cœur de l'armée céleste, un cœur d'ange qui vient chanter ici, gloire à Dieu. Au verset 20, eh bien, ce sont les bergers eux-mêmes qui s'en retournent et qui glorifient Dieu. Et puis au verset 32, vous vous souvenez peut-être de Siméon qui a pris l'enfant dans ses bras et qui a dit « Mes yeux ont vu ton salut préparé dès avant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations » et verset 32 « Gloire d'Israël, ton peuple ». Et si on ajoute à cela d'autres personnes qui louaient, on voit que c'est une atmosphère glorieuse, c'est un événement glorieux. La naissance de Jésus-Christ est du point de vue de Dieu et de ceux qui ont été qui attendait le Seigneur, eh bien, un événement des plus glorieux. Et donc ce n'est pas l'appréciation ou la joie ou l'émerveillement ou la compréhension même des hommes qui fixe la grandeur de cet événement, c'est vraiment l'atmosphère glorieuse que Dieu met dans cela. Mais à côté de cette atmosphère glorieuse ou au sein de cette atmosphère glorieuse, pas comment il faudrait le dire, on voit aussi une grande simplicité, une grande humilité. Si vous lisez l'histoire, c'est quelque chose qui est quand même très simple. Hein? Lorsque l'ange apparaît, puis vient voir les bergers, Il dit, je vous annonce une grande nouvelle. Et puis, il dit, quelqu'un est né. C'est juste ça. Hein. On pourrait dire, hein, c'est glorieux, mais ce qu'il annonce, c'est quelque chose qui est somme toute tout à fait habituel et banal, on pourrait dire, hein, avec lesquels les gens, les bergers, tous les gens de cette époque-là sont habitués. Donc le récit de la nativité dégage aussi cette atmosphère de simplicité qui tranche peut-être avec le quotidien compliqué hein, que ces gens-là étaient en train de vivre. Dieu apporte au monde une réponse à la fois, on pourrait dire, glorieuse et simple aussi à leurs problèmes. Ici, donc le titre du message ce matin, c'est « La gloire de Dieu dans l'humilité ». C'est ce que l'on voit dans ce texte. Et premièrement, je voudrais souligner que le message de Noël, c'est un message qui est glorieux, mais que bien que glorieux, il s'accommode de circonstances les plus simples ou les plus humbles. Quand le fils d'un roi est sur le point de naître, je crois que les caméras du monde entier sont invitées et sont braquées bien à l'avance sur le lieu de naissance. Comme vous avez suivi dernièrement, je ne sais plus comment, quelle année c'était, mais en Angleterre, la naissance de bébé de la reine d'Off. Oui, hein, c'est la petite, voilà, la future, voilà. Et donc, eh bien, il y avait des caméras du monde entier qui étaient là depuis longtemps auparavant, d'accord, pour être certain d'être là le jour où la naissance arriverait. Le monde entier est convoqué devant, bien sûr, ce qui est un palais, pour ne rien rater de l'événement. Et on aurait pu attendre que la venue du Fils de Dieu, celui qui a tout créé, eh bien, se passe dans des conditions au moins similaires, dans un lieu merveilleux, dans des lieux élevés d'Israël. Mais ce n'est pas ce que l'on voit lorsque l'on lit le texte ici. Dieu, dans sa sagesse, a choisi ici de faire naître Jésus dans des circonstances tout à fait humbles et tout à fait simples. Ici, le Fils de Dieu vint au monde dans la plus grande et dans la plus extrême simplicité. À part Marie et Joseph, nul ne sait qu'il est né. Il n'y a aucune manifestation particulière, pas de roulement de tambour, le ciel ne change pas de couleur, la terre ne tremble pas, tout se passe comme à l'accoutumée. Ici. Le Fils de Dieu, celui qui partageait la gloire auprès du Père avant que le monde fût, il naît sur cette terre sans éclat, sans beauté, Isaïe dira, sans rien pour attirer nos regards. Il naît au sein du plus petit peuple. Israël était le plus petit peuple à l'époque. Un peuple esclave sous le joug romain, sous la domination romaine à cette époque. Il naît non pas dans la capitale, mais dans la plus petite ville, Bethléem, petite entre les milliers de Juda. Il naît d'une mère pauvre, habitante de Nazareth, ville de laquelle on dit il ne sort rien de bon de Nazareth, et sa mère ne pouvait rien lui offrir d'autre qu'une mangeoire pour qu'il puisse naître. Elle l'emmaillota, dit le texte, et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, entre dans les limites de sa création, dans le silence et la faiblesse d'un bébé. Le message de Noël, bien que glorieux, on le voit, s'accommode de circonstances extrêmement humbles et extrêmement simples concernant Jésus-Christ. Mais le message de Noël aussi, deuxièmement, bien que glorieux, s'adresse, on le voit ici, aux simples, aux humbles. Chapitre 2, versets 8 et 9 disent « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. » Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. On pourrait se dire, bien, ok, ça n'a pas bien commencé. La naissance de Jésus est arrivée dans des circonstances simples, humbles. Mais maintenant, il faut passer au cran supérieur. On peut peut-être aller l'annoncer à des personnes. Peut-être qu'il est né dans de manière incognito, mais peut-être qu'on peut faire en sorte que les gens, les hauts placés, que la nouvelle parvienne au sommet de l'État. Mais là encore, la Bible nous montre que Dieu choisit de révéler la naissance de son Fils à des personnes humbles. Et c'est ce que l'Évangile nous montre ici. C'est à des bergers, dans une sphère privée, que la naissance de Jésus-Christ est annoncée depuis le ciel. Et à cette époque, les bergers se situaient vraiment au bas de l'échelle sociale. C'était des gens qui étaient méprisés, qui étaient considérés comme impurs parce qu'ils ne pouvaient même pas participer aux cérémonies du temple à cause de leur travail. Ils étaient obligés de rester tout le temps avec des animaux. Et puis, c'était des gens qui étaient peu dignes de confiance. On dit que on ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas accepter le témoignage des bergers dans le domaine de la justice. Leur témoignage n'était pas digne de confiance. Donc c'était des gens qui étaient vraiment repoussés, qui étaient méprisés. Et on ne sait même pas, peut-être qu'ils ne savaient même pas lire non plus dans ce temps-là. Mais c'est à eux que Dieu s'adresse. C'est eux qu'il va voir, c'est vers eux qu'il déploie le cœur, la chorale céleste d'anges qui vient chanter. C'est eux qui sont les premiers informés de la naissance du Fils de Dieu. Et il plaît à Dieu vraiment de se révéler aux simples. C'est un message que l'on voit dans l'Écriture. Il plaît à Dieu de se révéler aux simples. Les hommes mesurent l'importance d'un message par le niveau intellectuel des personnes qui adhèrent à ce message. Voilà. C'est des gens qui sont très haut intellectuellement, ils pensent ça, donc ça doit être bien. Et c'est pour cela que parfois on aime dire quand tel ou tel sportif de haut niveau, tel ou tel intellectuel accepte l'Évangile, on va dire, oui, même lui aussi, il est devenu chrétien. Pourquoi ? C'est comme si ça donne un petit peu de valeur à l'Évangile. Si des personnes intellectuelles qui sont connues, qui sont mondialement connues, se tournent vers Christ. Et si on était là, peut-être qu'on prierait dans le secret de nos cœurs, Seigneur, mais voilà, révèle-toi à ces personnes importantes, qui sont placées à des postes stratégiques. Tu t'imagines ce que ça pourrait faire et comment tu pourrais toucher le monde. Parce que quand le monde verrait que des personnes importantes, connues, se tournent vers toi, eh bien, verrait que le message de l'Évangile est un message digne de confiance et se tournerait vers toi. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fait. La Bible dit même que Dieu choisit de cacher des choses aux sages et aux intelligents et de les révéler aux enfants, aux simples. Et c'est ce que Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 21. Il dit, Jésus tressaillit de joie dans son esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'aies voulu ainsi. Jésus se réjouit que telle est la volonté de son Père. Il arrive dans certaines églises que l'on bombe le torse parce qu'on a en son sein la composition sociale contient quelques personnes bien placé, etc. Donc on est content. Parfois, j'ai même entendu parler des gens qui disent « Ouais, dans cette église, il y a beaucoup d'ingénieurs, de ceci ou de cela, etc. » Et puis, peut-être on peut être orgueilleux à cause de cela. Mais on note que dans l'Écriture, ça n'est pas la composition habituelle des églises même. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. C'est le choix que Dieu a fait de choisir tout ce qui choque l'orgueil humain. Tout ce vers quoi, naturellement, l'homme se tournerait, bien Dieu a délaissé cela, il a choisi autre chose. Dieu a pris la faiblesse, il a pris l'humiliation, tout ce que l'homme a en horreur, ce qui choque leur intelligence. Bien, c'est ainsi, c'est dans cette voie qu'il agit. Et donc, il plaît à Dieu de se révéler aux saints. Il lui plaît de le faire ainsi afin de renverser les orgueilleux. Et Marie dit cela dans son cantique. Regardez, Luc chapitre 1, verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. Marie dit, « Ici, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Donc déjà, voilà, moi qui suis, elle parle de sa pauvreté, du fait qu'elle n'est rien. Elle dit, « Dieu a jeté les yeux sur cela. » Car voici, dit-elle, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi, dans ma bassesse, on pourrait dire, de grandes choses. Son nom est saint. Verset 50, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Puis verset 51, regardez, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Et il a renversé les puissants de leur trône. Si il fallait annoncer dans le monde la naissance du fils d'un roi, ce serait dans des hauts lieux, n'est-ce pas? Là où il y a les trônes ici. Mais Marie dit, Dieu fait différemment. Il renverse les choses. Dieu agit ainsi parce qu'il lui plaît de renverser les orgueilleux. Et Paul dira dans ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 1, verset 19, il dit, « Aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Il plaît à Dieu de se révéler aux simples. Il le fait ainsi afin de renverser les orgueilleux. C'est un choix volontaire de la part de Dieu. Et c'est ainsi qu'il se plaît à établir les choses, et cela est visible, même dans les personnes auxquelles il s'adresse, premièrement, quand il annonce la naissance de Jésus-Christ. Il plaît à Dieu de le faire ainsi aussi, afin que toute gloire lui revienne. Et la gloire de Dieu est proclamée dans ce qui est fait. Le cœur des anges chante gloire à Dieu dans les hauts lieux, dans les lieux très hauts, pardon, et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Et ce qui se passe, la manière avec laquelle la chose se passe ici, eh bien, les anges chantent que cela glorifie Dieu. Dieu a choisi, disait l'apôtre Paul, les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, et il ajoute, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si l'homme ne peut se vanter de rien lorsque Dieu agit ainsi, ni de ses œuvres, ni de ses capacités intellectuelles, ni de ses compétences artistiques ou autres, ça n'est pas. Donc, Dieu, l'ange va voir des bergers, des gens qui sont méprisés, des gens qui ne sont pas, voilà, intellectuellement élevés, pour leur annoncer le message de l'Évangile. Parce qu'il plaît à Dieu de le faire ainsi, afin que nul ne se glorifie. C'est parce que je suis capable de comprendre que l'ange est venu me voir. C'est parce que j'ai telle compétence qu'il est venu. Non, Dieu est allé vers ceux qui sont humbles, petits, pauvres, méprisé, afin qu'il se glorifie dans cette manière de faire. Et Marie a bien compris cela dans sa louange. On voit bien que Dieu est le centre de sa louange. Et quand elle pense à elle, elle pense à elle en termes de bassesse et de pauvreté. On peut dire, oui, le message de Noël est un message glorieux, bien que glorieux, c'est un message qui s'adresse aux simples, aux humbles. Mais troisièmement, je voulais souligner aussi que le message de Noël, bien que glorieux, est un message simple, somme toute. Ce qui est glorieux pour l'homme naturel doit être toujours subtil, raffiné et sophistiqué. Il faut que pas grand monde puisse comprendre ce qui se passe. Mais notez, quelque part, la simplicité, je parle du message que l'ange adresse aux bergers. Ils ne craignaient point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ils disent, un bébé est né et il est le sauveur, le Christ, le Seigneur. Ça n'est pas difficile à comprendre, ça. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas profond. On ne dit pas que derrière tout cela, il y a quelque chose qui est insondable. Parce qu'il est question ici de l'incarnation, du fait que Dieu fait chair, s'est manifesté en chair. Mais ce qui est dit ici est compréhensible pour les bergers. C'est un message simple, en quelque sorte. Et considérons donc ce message ici. Il dit, il vous est né un sauveur. Parle donc quelque chose qui les concerne eux-mêmes. Vous, c'est pour vous qu'il est né. Les bergers sont non seulement les premiers, on le voit ici, informés, mais ils sont les premiers concernés aussi par la bonne nouvelle qui leur est annoncée. Le peuple aussi est concerné par cette bonne nouvelle, parce qu'il dit que ce sera un sujet de joie pour tout le peuple. Et un peu plus tard, Siméon dira même que c'est une lumière pour éclairer les nations. Donc on voit les bergers, donc c'est quelque chose qui est personnellement, individuellement pour les gens, mais qui est aussi pour le peuple d'Israël et puis pour les nations, tous les non-juifs, c'est-à-dire nous. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et puis, il dit, il vous est né donc un sauveur. Donc déjà, c'est un homme puisqu'il est né, c'est un humain. Et donc on peut voir ici déjà... le Dieu fait chair, hein, mais il dit, il vous est né un sauveur. Et le nom de sauveur met l'homme vraiment face à son impossibilité totale de faire quoi que ce soit lui-même pour se sortir de là où il est. Si on a besoin d'un sauveur, c'est qu'on ne peut rien faire pour nous-mêmes. On est sans espérance, à moins que quelqu'un vienne et nous tirer de là où nous sommes. Donc le nom de sauveur fait référence à cette impossibilité pour l'homme de faire face lui-même à son état, à l'état dans lequel il se trouve. Mais cela dit que ce n'est pas d'une aide dont l'homme a besoin. Ce n'est pas d'un coup de pouce qu'il a besoin. Il a besoin d'un sauveur. Il a besoin de quelqu'un qui le tire vraiment de là où il se trouve. Et donc le nom de sauveur met l'homme vraiment face à sa condition de perdition ici. En disant « il vous est né un sauveur », notre texte ici dit avec force que le besoin le plus fondamental de l'homme, c'est d'être sauvé. Et sauvé de ses péchés, on le sait, et de la colère de Dieu. Et lorsque l'ange parle dans Matthieu à Joseph, il lui dit, « L'enfant qu'a conçu Marie vient du Saint-Esprit, et l'enfant t'aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il dit donc, il sauvera son peuple de ses péchés, mais il dit, c'est lui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre à part lui qui puisse le faire. Il est l'unique sauveur qui puisse sauver l'homme de ses péchés, ici. Et donc l'ange dit ici au berger, il vous est né un sauveur, c'est-à-dire celui que Dieu a pourvu pour vous racheter de vos péchés. Le salut, on pourrait dire, c'est lui. Ce n'est pas lui plus les œuvres de la loi. Ce n'est pas lui plus les traditions. Ce n'est pas lui plus quelque chose. C'est lui tout seul. C'est lui ou rien. C'est-à-dire, c'est lui, on est sauvé avec lui, ou ce n'est pas lui et on est à jamais perdu. Et pour mesurer vraiment la puissance de cette bonne nouvelle, de la naissance du Sauveur, il faut prendre vraiment la mesure autant que possible de la réalité tragique dans laquelle l'homme se trouve. Ce qui qualifie chaque être humain de manière la plus fondamentale, c'est qu'il est pécheur. Tout le reste, on pourrait dire, n'est que littérature. Il est pécheur. Et ce dont il a besoin, c'est un sauveur. Et Adolphe Mounot disait ceci, il dit, non seulement Jésus n'est sauveur que parce que vous êtes pécheur, mais il est sauveur dans la même proportion que vous êtes pécheur. Aussi tant on est tellement un grand pécheur qu'on a besoin d'un grand sauveur pour nous sauver. Et Paul dit ici, Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un sauveur ici. Le Père a envoyé, disait l'apôtre Jean, le Fils sauveur du monde. Et c'est ce que les bergers, l'ange annonce ici aux bergers. Il vous est né un sauveur, mais il dit un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il y a eu dans l'histoire d'Israël des hommes qui ont été des sauveurs, même qui ont porté le nom de sauveur. Josué, par exemple, c'est la même racine. Hein. Josué, fils de Nun, au temps de Josué, de Moïse. Josué, fils de Jotsadak. Toutes ces personnes étaient des personnes, on pourrait dire, qui ont été quelque part des sauveurs pour le peuple d'Israël. Et lorsque Néhémie résume un petit peu l'histoire de ce peuple d'Israël, il dira ceci, il dit « Tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. » Et donc tous ces sauveurs, quelque part, ont montré au peuple le chemin, on pourrait dire, du salut, comme Zacharie le dit dans son cantique ici, au Gadot, verset 76. Il parle de Jean-Baptiste, il dit, Luc chapitre 1, verset 76, il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Donc quelque part, ceux qui donnent la connaissance du salut sont, dans une certaine mesure, des sauveurs. C'est ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, je crois, quand il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. » Donc quelque part, ceux qui guident dans l'évangile, comme ceux-là, les apôtres, les prophètes, ont été, d'une certaine manière, des sauveurs pour le peuple. Ceux qui annoncent la voie du salut, comme disait cette femme qui avait l'esprit de Python. Il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut, ici. Mais ces personnes ne sont pas des sauveurs comme celui qui est décrit ici. Et l'ange donne une identité particulière. Il dit, il vous est né un sauveur. Et il ajoute, qui est le Christ, le Seigneur. Adolphe Mounot disait, si l'apôtre Paul a pu souffrir pour nous, comme il le dit en Colossiens 1, 24, il dit, c'est dans notre intérêt qu'il a souffert, mais pas à notre place. Ici, il s'agit d'un sauveur qui va mourir, souffrir à notre place. Il dit qu'il est le Christ, celui qui est roi, qui est choisi par Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les prêtres, les rois et les sacrificateurs étaient roi par Dieu. Mais tous ces offices-là préfiguraient celui qui allait être l'ultime prêtre, l'ultime sacrificateur et puis l'ultime roi, Jésus-Christ, celui qui a été loin, celui dont il est question dans le psaume 2, comme loin que Dieu a choisi. Lui-même, quand il est entré ici dans le temple, Jésus, en Luc chapitre 4, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc quand les juifs, quand les bergers, qui certainement étaient enseignés aussi dans la connaissance de Dieu, entendent qu'il est le Christ, comprennent le Messie, celui qui doit venir ici, celui que Dieu a choisi particulièrement pour une mission spécifique de racheter les hommes de leurs péchés. Mais il dit aussi qu'il est le Christ, le Seigneur, et ce titre fait, le frère l'a souligné tout à l'heure, référence au fait qu'il a autorité sur toute chose, mais aussi fait référence à sa divinité. Le terme indique que le bébé de la crèche est vrai Dieu. C'est Dieu manifesté en chair. Et donc le sauveur dont il est question ici, c'est celui qui est roi, mais c'est Dieu aussi lui-même. Et donc, c'est un message qui est simple. Notre problème, c'est le péché. Et notre besoin, c'est un sauveur. Dieu envoie, se manifeste en chair et pourvoit un sauveur qui nous délivre parfaitement du péché et de sa propre colère. Et puis quatrièmement, je voudrais terminer en disant que le message de Noël, bien que glorieux, demande une réponse simple. D'accord ? On a vu que le message de Noël, bien que glorieux, s'accommode de circonstances simples. Il s'adresse à des personnes simples, aux simples. On a vu que ce message est un message simple. Mais surtout, on veut voir que ce message de Noël, bien que glorieux, demande une réponse, exige une réponse ou appelle une réponse simple. L'apparition des anges aux bergers n'était pas pour leur donner simplement une information sur ce qui se passe. Ça fait que nous sommes habitués à avoir des informations sur ce qui se passe dans le monde, sans que cela change rien dans nos vies. On envoie sur notre téléphone portable, toutes les je ne sais pas combien de secondes, hop, quelque chose vient de se passer à l'extrême bout de la planète et on est informé. Et on n'aurait pas été informé que ça n'aurait rien changé. Et on reçoit des tonnes et des tonnes d'informations. Mais ici, ce n'est pas une information pour une information qui est donnée aux anges. Là, le texte dit ici que l'ange dit au berger, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. » Et ces indications précises qui sont données ici laissent entendre qu'une réponse est attendue de la part des bergers. Sinon, pourquoi donner l'information? Voilà à quel signe vous les reconnaîtrez. Donc, ils doivent aller pour pouvoir le reconnaître. Que la réponse attendue de leur part n'est pas de percer le mystère de l'incarnation. Ça n'est pas de savoir pourquoi c'est à eux que le message a été annoncé. La réponse attendue n'est pas pour eux de s'extasier devant la beauté de ce qui s'est passé. Parfois, on est, le Noël, c'est merveilleux. Ouais, on est en extase devant la beauté des choses. Ça n'est pas de commencer non plus un débat théologique, comme ça peut souvent arriver. La réponse qui est attendue, c'est quoi, à votre avis? C'est la foi. C'est de croire. Et notons comment l'exercice de la foi est importante ici dans les récits de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel vient voir Zacharie. Le frère Marcel nous a entretenu de ça la semaine dernière. Il vient voir Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et on est aux prises avec un homme qui est incrédule, qui n'ajoute pas tout de suite foi à ce qui s'est passé. Mais plus tard, n'est-ce pas, il exerce la foi dans ce que l'ange a dit, puisqu'il nomme l'enfant comme l'ange a déclaré qu'il devait être appelé. Lorsque l'ange visite Marie, la foi est aussi attendue. Et c'est pour cela que l'ange lui dit, à son interrogation, il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Même si on ne voit pas comment ça va se faire, rien n'est impossible à Dieu, il faut croire ici. Mais on voit aussi la foi de Marie, dans ce que souligne Élisabeth. Regardez au chapitre 1, verset 45, Élisabeth parle et puis avec Marie, et elle dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Peut-être pensait-elle à son mari qui n'avaient pas cru, comme l'ange avait dit. Regardez ce que l'ange dit au verset 20 de ce même chapitre. « Et voici, tu seras muet et tu pourras ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Et Élisabeth dit à Marie, celle qui a cru, vous voyez ça un peu, il y a quelque chose qui se ressemble ici, celle qui a cru les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur et qui a cru que ces choses auront leur accomplissement ici. Mais on voit quand même qu'il est question de foi. Lorsque Siméon prend le bébé dans ses bras, il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Il croit dans ces choses. Il croit ici. Et donc, les bergers répondent de la manière la plus simple qui soit au message glorieux des anges. Ils croient dans la parole annoncée et cette foi va se manifester sous plusieurs aspects. Premièrement, par l'obéissance. Ici. Il dit, lorsque les bergers, les anges les eurent quittés, verset 15, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, ici. Une foi qui sauve est une foi qui génère un mouvement, une obéissance, ici. Cette obéissance est une attitude qui se conforme à la parole qui a été entendue. Les bergers agissent conformément à ce qu'ils ont entendu. Ils partent pour chercher, ils y allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Donc c'est ce qui leur a été révélé qui les met en mouvement. Dans ce mouvement, on pourrait dire d'obéissance. Ils agissent conformément à ce qu'ils ont entendu. Ils vont voir ce qui leur a été révélé. Et ils mettent la parole de l'ange à l'épreuve, on pourrait dire. Donc, une foi qui se manifeste par l'obéissance. La foi véritable se manifeste toujours par l'obéissance à la parole de Dieu. Cette obéissance consiste toujours à conformer son attitude, son comportement à la parole que l'on vient d'entendre. Ici, l'ange dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Et la Bible dit que les bergers partent en hâte pour voir ce que l'ange leur a annoncé. Deuxième manifestation de cette foi, c'est le témoignage, on pourrait dire ici. Verset 17 dit, « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant, et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Les bergers ne demeurent pas silencieux, mais partagent cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée. Voilà des hommes qui étaient, on l'a dit tout à l'heure, méprisés dans la société, dans le plus bas niveau de la société. Des hommes dont le témoignage n'avait aucune valeur. Et là, ils vont témoigner des choses extraordinaires qui viennent du ciel. Dieu les utilise comme ses témoins pour annoncer des choses qu'il a dites à propos de ce petit enfant. N'est-ce pas merveilleux, hein? Ils sont maintenant des témoins, on pourrait dire même des missionnaires convaincus et convaincants dans ce petit laps de temps où ils vont voir dans la crèche. La foi véritable n'est pas silencieuse. La foi de Zacharie, celle de Marie, les pousse à composer ces cantiques, on pourrait dire, ces prophéties, ces cantiques que nous avons ici. La foi s'exprime, elle confesse toujours Jésus-Christ. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit « Comme nous avons le même esprit de foi » qui est exprimé dans cette parole, elle cite probablement le psaume 116, il dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » et il dit « Nous aussi, donc, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Hein? » Il dit « Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Autrement dit, la foi véritable se manifeste toujours par le fait de témoigner ici. Et c'est ce qu'on voit avec les bergers. Et notons quand même au passage le contenu du témoignage des bergers. Ils ne racontent pas leurs sensations du moment. Ouais, nous avons eu peur. Il n'est pas dit ici que les bergers ont raconté comment ils ont eu peur. Comment c'était terrifiant la scène. Peut-être qu'ils ont dit ça au passage. Mais ce que, sur quoi nous attire le texte, c'est qu'ils ont raconté ce qui leur avait été dit et qui concernait qui ? Le petit enfant. Et témoigner, ça n'est pas raconter nos circonstances. Ça n'est pas raconter l'atmosphère de nos circonstances. C'est raconter ce qui est révélé à propos de Christ, de son salut, du message. C'est cela qu'on appelle véritablement témoigner. Ça n'est pas mon expérience que je raconte. C'est les réalités, les vérités concernant Jésus-Christ. Il est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. C'est vers lui que les regards doivent toujours se tourner. Puis troisième aspect de la foi des bergers, bien c'est la louange. Regardez, il dit, et les bergers s'en retournèrent, verset 20 je crois, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. La foi véritable se manifeste aussi par la louange. Les bergers s'en retournent glorifiant et louant Dieu. C'est le cas de Zacharie, et c'est le cas aussi de Marie, c'est le cas de Siméon, et c'est le cas de Anne. Si vous regardez toutes ces personnes-là, elles louent Dieu une fois qu'elles sont mises au contact de l'œuvre de Christ. Donc cette louange, vous voyez, naît de l'expérience de la réalité des choses qui ont été annoncées. C'est une chose d'entendre la parole, c'en est une autre d'expérimenter la parole par l'obéissance et d'en attester la réalité. C'est une chose d'écouter la parole. Jacques le dit, il dit ne vous contentez pas d'écouter, mais surtout il faut mettre en pratique la parole de Dieu. On peut entendre et ne jamais être mis en mouvement. Hérode a entendu. Les scribes ont trouvé où devait naître l'enfant, le Messie. Ils ont instantanément dit, ça c'est à Bethléem, parce que Michée il a dit ceci. Une connaissance extraordinaire des textes, mais aucun mouvement. Aucun mouvement. Les bergers entendent qu'il est à Bethléem, et la Bible dit, ils vont en hâte. La foi suscite toujours le mouvement, et puis ici il suffit toujours, que j'ai dit deuxièmement, l'obéissance, hein, le témoignage, et puis ici, la louange. Et il faut expérimenter la parole de Dieu pour pouvoir louer Dieu. À un moment donné, Jésus discute avec les gens de son époque, et puis il remarque sa connaissance des Écritures. Et puis il dit, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a jamais étudié, il n'est jamais allé dans l'école biblique là, des rabbins. Et comment est-ce qu'il connaît tout cela? Et Jésus veut leur assurer que ce qu'il annonce vraiment vient de Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit dans Jean chapitre 7, versets 16 et 17. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Il dit ici, pour connaître, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Pour expérimenter que c'est la vérité, il faut obéir à la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui se joue seulement dans la tête. Ce n'est pas une connaissance simplement cognitive. Le durcissement du cœur empêche l'expérience souvent de la connaissance de la vérité. Et donc, cette louange que l'on voit là vivre par les bergers, et parce qu'ils sont allés voir, qu'ils ont confronté ce qu'ils ont entendu à l'expérience, ils ont obéi, se sont soumis, et puis, eh bien maintenant, ils vivent ces choses dans leur cœur, et ils peuvent se réjouir. C'était la même chose pour Marie quand on lit dans son cantique. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est sa réponse à la foi. Verset 45, Élisabeth parle de la foi. Il dit, celle qui a cru Et Marie, et on voit dans le verset 46 que la foi de Marie l'atteint jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle a expérimenté, s'est soumise à la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et maintenant, elle éprouve une grande joie. Elle peut adorer Dieu pour ce qu'il est. Le message de Noël est bien que glorieux. Eh bien, demande une réponse simple. La foi qui obéit, qui témoigne et qui glorifie Dieu. Je voudrais juste terminer en disant ceci, chers frères et sœurs. La Bible dit, quelque part, l'apôtre Paul dit ici, que nous pouvons nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Le but du diable est de nous détourner de la foi simple à l'égard de Christ. Il dit toutefois, 2 Corinthiens 11, 3, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Une foi simple, comme celle des bergers. Un commentateur a dit « L'amour des nouveautés, de ce qui est extraordinaire, de ce qui flatte la sagesse charnelle, est toujours avant-coureur de la ruine. » Et souvent on aime cela. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui se dépassent pour venir à un culte ou à une étude. Mais si vous dites « on va faire un spectacle de Noël », et donc là on a du monde. Parce qu'on aime, on est attiré par ce qui est facétieux, qui a un certain éclat ici. Mais on voit que Dieu se plaît dans ce qui est humble et simple. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors, quelle est notre réponse à la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, quand nous écoutons cela? Peut-être vous êtes ici, c'est la première fois, peut-être c'est pas la première fois, mais bon, vous n'avez pas ajouté foi au message de l'Évangile. L'Écriture dit, craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Et j'espère que ce matin, la parole de Dieu trouve votre adhésion et trouve la foi. Notre responsabilité est de faire connaître simplement la bonne nouvelle autour de nous. Et peut-être cette époque de Noël, c'est l'époque où nous pouvons faire connaître. Il y aura des calendriers tout à l'heure à distribuer ou pour en acheter, pour pouvoir faire connaître simplement le message de l'Évangile autour de nous. Et puis je voudrais dire une chose aussi, qu'on voit ici que le message de Noël, le message de l'Évangile, ce n'est pas la promesse du changement de nos circonstances, mais c'est le changement de nos cœurs au sein des circonstances ici. Les bergers retournent dans leur simplicité de tous les jours, mais avec un cœur joyeux et glorifiant Dieu. Et ce que nous sommes amenés à vivre, ce n'est pas le spectaculaire, ce n'est pas le splendide, ce n'est pas l'apparition d'anges. Les anges ne sont apparus ici de cette manière-là qu'aux bergers, en train de chanter. Tout le reste du temps, ils ont dû vivre avec ce qu'ils savaient de Jésus-Christ. Et rien d'autre, la Bible dit que Jésus a vécu sur la terre, rien d'autre. Ne le distinguait des autres hommes. Non, l'Évangile n'a pas pour but de changer nos circonstances, mais de changer nos cœurs, peut-être au sein même des circonstances difficiles que nous vivons. Alors peut-être nous sommes dans des situations conflictuelles, difficiles. Quelqu'un a parlé de grève tout à l'heure, de mouvements sociaux. On ne sait pas comment les choses vont. Cela nous inquiète, cela nous dérange. Mais quelle est notre attitude concernant l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que cet évangile-là, simplement, pénètre nos cœurs? Est-ce que nous le recevons dans sa simplicité? Est-ce que comme Marie-Joseph, les bergers Anne, Siméon, nous adorons le Seigneur tel qu'il doit l'être? Que le Seigneur nous conduise et nous donne d'être de véritables adorateurs, de véritables témoignants aussi de cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour l'humilité que tu as montrée en venant ici-bas, sur cette terre. Oui, tu t'es humilié, tu t'es dépouillé, Tu es devenu un simple homme. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous voulons te louer parce que tu en es digne. Nous voulons ce matin encore te louer pour tout ce que tu accomplis, que tu as accompli, que tu accomplis encore dans nos vies. Nous te prions que le message de l'Évangile puisse être propagé tout autour de nous et que des âmes puissent se tourner vers toi. Quand ces temps particuliers, tu touches encore des cœurs. Qu'il y ait des lieux, des foyers où la simplicité de l'Évangile se révèle et où des cœurs sont touchés. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.